Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand salut à toutes et à tous. Merci d'être là, bon week-end et merci aussi d'être fidèle à De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end sur BFM Business, sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne YouTube aussi de Tech & Co, en audio, en vidéo, vous ne pouvez pas nous rater, sauf si vous ne nous aimez pas. Mais si vous ne nous aimez pas, c'est que vous n'êtes pas là. Avec au sommaire de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, en deuxième partie, comment choisir sa barre de son. C'est compliqué. Il y a beaucoup de modèles, beaucoup de marques, les prix aussi font le grand écart. Lionel Costa, le responsable du labo Fnac, nous dira comment choisir sa barre de son avec en plus des modèles bien précis qu'il a sélectionnés pour nous. Je vous rappelle le hashtag DQJMM. Je vous rappelle aussi que si vous nous écoutez en podcast, vous aurez évidemment droit à votre module bonus à la fin de cette émission. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Olivier Frigara. Bonjour Olivier.
Salut François.
Mon petit doigt me dit, qui est toujours là, mon petit doigt. Oui. Il me dit qu'on va parler du Vision Pro.
Oui, c'est une petite nouveauté.
Trois
fois rien.
Voilà, c'est quoi rien.
Tu vas voir.
Et Damien Licata Caruso est avec nous, qui découvre le Vision Pro.
Oui.
Pour cet éminent journaliste tech au Parisien, je me demande ce qui se passe. Bonjour Damien.
Bonjour.
Ravi de te retrouver.
Merci pour l'invitation.
Voilà, Le Parisien, avec plein d'actu tech, bien sûr, écrite par cet excellent journaliste qui est avec nous aujourd'hui.
Merci.
Il vient, non pas avec un scoop, en tout cas ça a été un scoop pour Le Parisien, mais tu vas venir, tu es là aussi pour nous expliquer tout ça. On va parler de la dématérialisation des titres de sécurité, quoi, en quelque sorte.
Enfin, carte d'identité, ce qu'on appelle communément les papiers. Oui.
Les papiers d'identité, voilà. Bientôt, on les aura sur le smartphone. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Partout un autre nom, du coup, parce qu'on ne pourra plus appeler ça papier.
Oui, il faudra appeler ça...
Déposer les noms, on va demander
aux
spécialistes.
Et puis, évidemment, on reviendra sur le Vision Pro avec Olivier qui l'a testé. On va parler aussi de ce labo d'intelligence artificielle que vient d'inaugurer Google avec Sundar Pichai qui a fait le déplacement. Hein. Ça, c'est dans un instant. Mais pour débuter, donc, le petit scoop de cette semaine dans Le Parisien. Aujourd'hui, et c'est vrai qu'on se fait arrêter par la police, par exemple, voilà, sur la route, on est obligé de sortir son vrai permis. Si on monte une photo, bon, on nous regarde méchamment et ça risque de mal se passer.
Oui, les forces de l'ordre sont parfois un petit
tout
peu
dépend,
tatillonnes.
Tout dépend sur qui on tombe.
Effectivement, ça, c'est un peu à la tête du client.
Mais tout ça va changer.
Ce qui va changer, évidemment, c'est qu'on ne va plus sortir son permis de conduire ni sa carte grise de sa boîte à gants, qu'on a parfois aussi oublié, égaré. Si elle est un peu vieille ou son permis est un peu vieux, on l'a peut-être un peu aussi déchiré.
Oui, parfois, j'ai un peu honte de le présenter.
Ah, bon. Eh bien, il y a une solution.
L'autre bout qui
pareil. L'autre morceau, le mien. Mais voilà.
Messieurs, il y a une solution.
J'ai des cheveux, moi, sur mon permis de conduire.
C'est... Ah, ouais. Et par contre...
Au moins là.
J'avais 18 ans. Hein.
Par contre, dans la nouvelle version du permis dématérialisé, on devra avoir une photo à jour de son permis. Et oui, vous allez devoir avoir la dernière photo qui va être intégrée dans votre permis dématérialisé, qui est de la forme... d'une petite carte de crédit, comme peuvent l'être les nouveaux permis qu'on délivre en ce moment. Et la version dématérialisée, elle va apparaître dans une application qui s'appelle France Identité. Vous allez avoir votre carte nationale d'identité électronique, la petite avec une puce qui va sécuriser votre démarche pour obtenir ces fameux permis dématérialisés.
C'est un
carte
peu le
grise dématérialisée.
La carte d'identité, c'est le sésame pour
c'est
avoir
le sésame,
toutes les
ça
autres
va
cartes.
Tout débloquer, oui.
Si je n'ai pas ma carte d'identité nouvelle génération avec la puce NFC, je peux rien faire.
Non, elle va tout débloquer. Il y a quand même 17 millions de Français maintenant qui l'ont adopté. Il y a eu une mise en route un peu difficile, c'est vrai. Il y a eu des files d'attente dans les préfectures, dans les mairies. Maintenant, c'est bien lancé.
Un petit peu. Je ne l'ai pas, moi, tiens. Vous l'avez ? Vous, la carte
d'identité
numérique ?
Je ne l'ai pas encore. Non, j'ai encore l'ancienne qui prend trop de place.
Ce qui est embêtant, c'est qu'il faut aller toujours.
Il faut aller dans la mairie. Il faut le faire une bonne fois pour toutes. En fait, vous allez dans la mairie, vous allez aussi authentifier votre carte, c'est-à-dire que vous avez donné vos empreintes digitales.
Ouais.
Vous le faites une bonne fois pour toutes. La carte est sécurisée. Et ensuite, on va pouvoir débloquer le permis, la carte grise d'ici la fin de l'année. Et bientôt, l'attestation d'assurance.
Ah, ce qui est vraiment génial, c'est en cas de perte. Voilà,
et même, vous l'avez oublié, vous allez prendre l'avion, voilà. Vous l'avez oublié, vous sortez. Alors, elle a la même valeur juridique.
Ouais. Alors, attends, Ça, c'est intéressant ce que tu dis.
Et oui, vous allez à l'aéroport, vous faites un vol intra-européen, ouais, vous l'avez oublié, vous la sortez, elle aura la même valeur juridique, une vraie carte d'identité.
Donc,
si tu perds tes papiers ou même tu perds ton téléphone,
non, mais tu as oublié tes papiers, tu es à l'aéroport.
Ce qui arrive.
Tout le temps.
Pour l'Europe ou que la France ?
Que pour l'Europe, ce sera une carte d'identité qui sera reconnue comme la vraie carte d'identité.
Génial,
donc elle est reconnue au niveau européen, la carte d'identité.
Mais par exemple, je te pose une question, tu n'as peut-être pas la réponse. Je fais un Paris-Berlin, Berlin-Paris.
Oui. Okay,
je n'ai pas ma carte d'identité physique. Je la présente pour partir.
Ça va beaucoup dépendre au
début. Est-ce qu'à Berlin, ça marchera aussi ?
Pour revenir ?
Ouais.
C'est une excellente question, mais apparemment, il n'y aurait pas de problème de compatibilité européenne.
J'ai coincé Damien Licata.
Non, il n'y a absolument aucun problème de compatibilité européenne.
Non, mais je pense que voilà,
parce que c'est,
il y a une entente et c'est une décision.
Ils ont commencé à lancer ça au niveau européen,
okay.
Une espèce de convergence. Les travaux ont commencé l'été dernier pour délivrer un titre qui soit reconnu par toutes les autorités européennes, l'ensemble des 27. Ils ont réuni tout le monde à Paris l'année dernière.
C'est
et pour que cette version virtuelle... numérique, plutôt, ils n'aiment pas trop le terme virtuel parce que ça fait un peu jouet,
ouais.
Mais plutôt numérique de nos papiers d'identité. Et on est en train de dématérialiser tout, mais il faut rassurer tout le monde sur ce point-là, même s'il y a beaucoup de gens fans de technologie dans l'audience, il y aura quand même encore en parallèle le vrai papier. On ne va pas s'en débarrasser tout de suite.
Mais on ne sera plus obligé de l'avoir sur nous.
Non.
Pour être identifié,
on aura une copie,
par les forces de l'ordre.
On aura une copie qui ne sera pas une photocopie ou un mail ou un PDF.
D'accord.
On aura une copie conforme, sécurisée, authentifiée.
Comment tu expliques cette accélération soudaine ? On sait qu'on était plutôt à la traîne en matière de numérisation. Tout le monde en Europe montrait du doigt la Lituanie. Tout d'un coup, il y a cette accélération. C'est une volonté de faire des économies concrètement ou c'est,
Peut-être sécuriser encore plus.
Il y a ça encore plus. Et puis ça ouvre surtout de nouveaux droits, de nouvelles démarches. Typiquement, la procuration en ligne, la plainte en ligne, tous ces services qu'on pouvait faire en dehors des commissariats. Là, on va avoir un moyen très sûr de les faire à distance.
Okay.
Et ça ouvre quand même un champ des possibles qui n'était pas envisageable encore avant le Covid.
Ouais, c'est clair. La petite question, est-ce que le passeport va aussi passer en digital ?
C'est une bonne question, mais là je pense que c'est encore plus compliqué parce qu'il faut être dans les standards internationaux. Européens encore, on peut s'accorder à 27, mais s'accorder au niveau...
Mais il y a quand même une entente internationale, puisqu'on a tous une puce dans le passeport qui te permet
après,
il faudrait qu'il y ait
un seul standard de sécurisation de ces documents qui soit numérisé. Et là, c'est des discussions qui se jouent à des niveaux encore très compliqués.
Je crois qu'il y a des pays déjà qui ont numérisé des passeports, je crois bien.
Ouais.
On n'avait pas parlé dans le Parisien ?
Je ne pense pas,
non,
les passeports encore.
Mais je crois qu'il y a, ou en tout cas,
c'est
il y a des projets.
Impossible. Justement, par exemple, on parlait de l'Estonie ou de la Lituanie qui sont assez en avance. Et bien l'ironie, ce sont des boîtes françaises qui font leurs documents d'identité. Donc on a les capacités en France technologiques.
En plus, on est excellent dans la faisabilité de la technologie.
Des boîtes dont je ne dirai le nom, mais qui sont capables de faire des documents ultra sécurisés pour d'autres pays avec un niveau d'efficacité. Et en fait, ils ont même carrément créé des usines dans ce pays, dans l'Estonie en l'occurrence.
D'accord.
Et c'est absolument infalsifiable aujourd'hui, ce type de document ?
Il y aura toujours des gens qui vont essayer, mais il faut qu'il y ait aussi à la fois une sécurisation physique, mais derrière, il faut qu'il y ait tout le back-office pour sécuriser ça.
Damien, petite question concrète. Comment alors j'installe ça sur mon téléphone. C'est via une appli.
Oui. France Identité.
France Identité, d'accord. Il y aura tout stocké. Tous mes papiers seront stockés dans cette appli.
Oui.
Ça sera pas. Et comment je le déverrouille ? Il suffit que je lance l'appli pour avoir les papiers.
Il faudra lancer l'application.
Il y a un code, il y a un Face ID, il y a des choses comme ça ou pas ?
Une manière de sécuriser. Non, a priori, il y a pas de code. Ce sera le même code Face ID qui déverrouille l'iPhone comme si c'était une application comme une autre.
C'est un iPhone.
C'est un iPhone.
Pour ma paroisse,
mais de temps à autre, il faudra quand même repasser sa carte de sa CNIE, la carte nationale d'identité électronique, derrière la puce NFC pour pouvoir réactiver des démarches. Typiquement, je veux faire un certificat pour mon assureur. Je veux une carte d'identité sécurisée, une copie de ma carte d'identité sécurisée en PDF. Je dois devoir quand même déverrouiller l'application avec ma CNIE. C'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir quand même à portée.
D'accord.
C'est vraiment le sésame qui débloque tout.
Oui, ça va permettre en fait d'authentifier une démarche.
À chaque fois.
Ok.
Si on paye avec son téléphone en fait.
Donc là, je prends quoi ? Je prends ma carte, je la pose sur mon téléphone.
De toute façon, l'application va vous le demander. À un moment, l'application va vous dire, vous voulez éditer un nouveau document, il faut quand même que vous sécurisiez ce document parce que ça va éditer un QR code qui sera lisible par l'administration ou par exemple un assureur. Une agence de location de voiture, il y aura plusieurs scénarios comme ça. Dans tous les cas, il faudra que ce soit sécurisé, donc ce sera toujours la CNIE derrière.
Et tu me vois venir, j'ai une pomme qui est gravée sur mon bras gauche. On sait que les GAFAM et Apple en particulier veulent développer son propre standard avec son propre wallet de chez Apple.
Aujourd'hui, on a déjà nos cartes, enfin nos cartes de paiement, des choses comme ça.
Tout à fait. C'est déjà aux États-Unis, sur les permis de conduire.
Oui. On peut mettre les permis de conduire
sont,
aux États-Unis.
Dans le wallet d'Apple, effectivement.
Quid de la France, alors ?
Le ministère de l'Intérieur nous a clairement indiqué qu'ils n'avaient aucune velléité de laisser les fonctions régaliennes à un GAFAM. Okay. C'est la carte d'identité est suffisamment sensible pour qu'on la mette dans un wallet. Ça n'arrivera pas ni chez Android, ni chez iOS. D'accord, on va quand même garder le contrôle.
Il y aura une app dédiée qu'il faudra lancer.
Tout à fait, une app dédiée qui sera développée et sécurisée par l'État français.
Parce que le débat est passé par là. Apple autorise des choses qu'on pouvait pas faire avec le wallet. Là, enfin, ça va arriver en mars. Ils ont un peu déverrouillé le NFC. C'est vrai que finalement, avoir une enclave commune pour tous nos papiers d'identité, alors même si c'est américain, etc., ça aurait été plutôt sympa, quoi. Parce que là, il faut lancer l'appli, etc., etc.
Bon, si on sait la collecte des données, donc...
On peut comprendre qu'il y a de la souveraineté derrière tout ça et qu'on veut pas...
C'est bien le moment de la mettre en avant, la souveraineté, pour le coup.
Cela dit, on a réussi
quand même à le développer nous-mêmes.
Cela dit, c'est une enclave sécurisée. Même Apple n'a pas accès à ces données. Donc finalement, ce n'est qu'un outil. Alors, qui est américain, certes, mais qui...
Et une fois de plus, les données, vraiment, vont rester sur la puce de la carte.
Elles ne sont pas stockées, hébergées dans le cloud.
Non. Tout transite vraiment par la carte. Okay. C'est seul moyen de sécuriser tout ça.
Voilà pour donc cette actu que vous pouvez découvrir. Alors maintenant, ça a été repris par tous les grands médias, mais vous avez été les premiers à nous annoncer tout ça.
Tout à fait.
Aux Parisiens, Damien. Tiens, puisqu'on parlait d'Apple, belle transition. Hein, merci beaucoup à tous les deux. Le Vision Pro, on en a beaucoup parlé la semaine dernière dans Tech & Co, mais aussi dans De quoi je me mêle, avec des démos qu'on a pu faire qui étaient franchement plutôt impressionnantes. Hein. On a réussi à voir ce que voyait la personne qui portait le masque sur l'antenne, et ça c'était cool. Olivier, bien sûr, en tant que, on va dire, ambassadeur Apple au niveau mondial, tu as enfin testé...
En tant que grand-père du Mac.
Tu as testé le Vision Pro.
J'ai eu ce plaisir, oui.
Et tu vas nous donner ton avis. Alors, je pense qu'il est enthousiaste.
Non, pas forcément. J'étais un peu sur la retenue au départ.
C'est vrai ?
On en avait déjà discuté ensemble, François. Quand on a vu en juin dernier la conférence des développeurs d'Apple à Cupertino, on a vu le lancement de ce produit qui était très spectaculaire, mais c'était que des images en 3D. C'était hyper fluide. C'était vraiment l'impression de voir un film hollywoodien. Et on savait bien que les premières versions des produits d'Apple... C'est souvent des versions alpha ou bêta et on s'attendait à ce que ça soit pas aussi bien, qu'il y ait des ralentissements, qu'il y ait pas cet effet wah qu'on n'a pas ressenti depuis très longtemps que Steve Jobs a quitté le navire.
Il y avait beaucoup d'attentes sur ce produit.
Voilà. Donc moi je suis arrivé avec retenue et puis avec un a priori sur l'idée de la réalité virtuelle, même si c'est un casque de réalité mixte, de se dire on va s'isoler, c'était pas forcément dans mes gènes. Puis je l'ai mis et là, j'ai pris une gifle, je te dis même pas.
Hein. Il est retombé amoureux.
Mais écoute, moi, si j'ai une analogie à trouver, j'ai eu le même sentiment la semaine dernière lorsque j'ai porté pour la première fois l'Apple Vision Pro que le jour où j'ai essayé pour la première fois un Mac avec une interface graphique et une souris, où on est passé d'un PC, d'un DOS et du terminal à un univers où tout à fait différent,
avec
une souris et une interface.
Donc une ergonomie totalement repensée à l'époque.
J'ai pris conscience qu'il y avait une nouvelle manière d'appréhender, entre guillemets, l'informatique, même si le terme aujourd'hui est un peu désuet, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle manière de se divertir et une nouvelle manière d'inclure le numérique dans notre quotidien. Et ça, c'est très intéressant. L'enjeu maintenant pour Apple, c'est de convaincre le grand public de l'adopter avec un prix plus raisonnable. Mais pour s'en rendre compte, il faut le porter. Et c'est vraiment... Bon, j'ai eu un effet waouh terrible.
Damien, tu l'as testé ou pas, le Vision Pro ?
Je l'avais testé effectivement en juin. Oui, à l'époque où on était encore vraiment aux prémices de tout ça. Mais c'est vrai que j'avais été emballé en sortant, mais en me disant, je me disais, il manque quand même quelque chose. Et ça finit par arriver. Ce sont tout l'écosystème d'applications.
Tu l'as pas retesté depuis.
J'ai pas retesté
depuis.
Ça
serait intéressant d'avoir justement.
Mais je vais le retester d'ici 15 jours. Ça va être une redécouverte. Je pense. C'est vrai qu'après, il reste quand même les problèmes physiques que sont le poids. Même si la batterie est déportée, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd dans mes souvenirs. Donc je suis pas sûr. J'ai vu aussi les vidéos des gens qui l'essayent pendant des heures, qui font toute leur vie avec. Je me suis dit comment c'est possible physiquement, parce que ça, bah, tu, quand tu le prends sur le crâne, tu te dis quand même.
Moi, j'ai quelque chose aussi par rapport à ça. Alors moi, je l'ai pas porté 4 heures, hein, je l'ai porté une petite heure, moins d'une heure. Je me suis dit la première chose que je vais ressentir effectivement, c'est le poids. Donc effectivement, quand on le met notamment avec la large bande, tu sais, sans les trois, sans la boucle au milieu, on sent du poids. Mm. Mais j'ai absolument pas été moi qui suis très sensible, puisque de porteur de lunettes depuis ma naissance quasiment, j'ai pas du tout été sensible et fatigué par ça. Moi, ce qui me faisait peur également, c'était d'avoir la cinétose, hein, l'effet de mat de mer que j'ai pu ressentir. Moi, quand tu vois un jeu un peu trop rapide, un jeu vidéo, j'ai touché la tête qui tourne, hein, pas du tout. Mais moi, ce qui m'a bluffé, c'est l'immersion totale. C'est-à-dire qu'on a... Tu le mets. Là, alors moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une demi-heure, 45 minutes, parce que les gens d'Apple nous avaient dit il faut aller en Apple Store, il faut le régler sur mesure, ça prend du temps. En 5 minutes, ouais. Il était optimisé pour mon visage et mes yeux, donc il calcule, tu sais, la distance, etc. En plus, je n'ai porté pas mes lunettes, mais j'avais des lentilles quand même. Ce jour-là, j'avais prévu ça. Et l'immersion, elle est, et l'intuitivité de l'interface. Mmh. C'est ça qui vraiment qui m'a donné un peu la chair de poule. C'est de dire waouh.
Tu t'es quand même bien senti à la maison, parce que tu avais aussi l'habitude de l'écosystème Apple, et on retrouve des bons réflexes qu'on peut avoir sur un iPad, sur un autre.
Oui, mais on oublie de toucher avec la main. C'est les yeux qui pilotent le tout. On regarde, on sélectionne une application, on pince.
On se prend très très vite au jeu.
Vraiment, c'est une nouvelle manière de naviguer, une nouvelle interface.
Alors, on en a parlé la semaine dernière avec à la fois JB de The Collection qui est venu sur le plateau de Quoi Je Mêle, qui nous a expliqué tout ça. Nicolas Lelouch était venu, puisque tous les deux sont partis à New York pour acheter le Vision Pro. Ce qui est intéressant et ce qu'on sait depuis, c'est que, évidemment, cet appareil est passé sous les fourches codines d'Ifixit, dont la spécialité est de démonter en fait les appareils. Vous savez qu'eux, ils ont une obsession, ils ont des tournevis et ils démontent tout ce qui touche.
Impressionnant, c'est incroyable ce qu'ils ont fait.
Et ils ont démonté, Olivier, le Vision Pro. Et c'est un concentré de technologie incroyable.
Mon ami Laurent, qui chroniqueur en fait le Mac, a utilisé une jolie expression pour ça. Laurent Pratanache, il parle d'un peu, on effeuille un oignon. C'est-à-dire, il y a des couches de techno, ça dure une demi-heure, il y a un nombre de composants. Et là, on se rend compte, évidemment, du concentré de technologie de cet engin, qui est vraiment impressionnant. Et on peut se dire, et on comprend mieux d'ailleurs, pourquoi, il est, entre guillemets, hein, si lourd, et au-delà, pourquoi il coûte si cher, parce qu'on est vraiment en matière de composants, alors même s'il n'y a pas de Wi-Fi 6E, mais en termes de certains composants stratégiques qui font la valeur ajoutée de l'Vision Pro aujourd'hui, au sommet de ce qui se fait en matière de techno aujourd'hui. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, avec, comme d'habitude, des matériaux très nobles, hein, qui sont le verre et l'aluminium, donc ce qui rajoute un petit peu du poids. Et c'est vraiment, vraiment, enfin, on voit dans la vidéo qui passe en ce moment, le nombre de couches qu'il y a de hardware, c'est vraiment le nec plus ultra en matière de casque mix aujourd'hui.
Est-ce que ça se démonte facilement?
Non, ça ne se démonte pas forcément.
Pas l'impression, non.
Facilement, tu vois, ils sont obligés de le chauffer pour retirer le verre.
Colle.
Voilà, mais c'est.
Du coup, ça veut dire que ça se répare aussi difficilement.
Oui, il y a aujourd'hui, on parle de zéro.
Il y a vocation à.
Ouais.
Impossible à recycler, impossible à récupérer.
Recycler, je pense que c'est facile, mais à réparer, je pense que ça va être compliqué. Mais effectivement, on est dans une première version. L'enjeu, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a encore énormément de travail de la part des designers et des ingénieurs d'Apple pour en faire une paire de lunettes comme je porte ou que tu portes au bout du nez et qu'on intégrerait dans une simple paire de lunettes correctrices. Et on voit que le travail est considérable. Ce qui est intéressant dans le travail d'iFixit, c'est qu'on comprend mieux donc pourquoi il coûte si cher. On peut se poser même la question, parce que si on assemble les composants, si à 4000 euros, hein, en gros, ou 3 500 $, il ne le vende pas à perte aujourd'hui, ce Vision Pro, franchement.
Ouais, c'est la petite musique qui traîne en ce moment. C'est que, en fait, pour promouvoir cet appareil, ils se sont assis sur leur marge.
Ouais.
Et chez Apple, ça doit être douloureux quand même, parce que, bon, c'est pas dans la culture de l'entreprise, hein, rappelons-le. Hein.
Ouais, oui, oui. 40 à 44% de marge brute en général chez Apple.
Voilà.
C'est plus que Louis Vuitton, hein, pour se déniser.
C'est dingue. C'est dingue. Sur des produits high-tech, c'est rarissime d'arriver à faire ça. Mais là, en fait, comme c'est un nouveau produit...
Se permettre du coup quand même de lancer des produits un peu fantasmes.
C'est nouveau, c'est nouveau, c'est Apple.
Impressionnant, cette vidéo elle est impressionnante d'Ifixit, on se rend compte, et ce que tu disais, voilà, toutes les couches technologiques qu'il y a dans cet appareil, c'est dingue. Je vous invite d'ailleurs à la regarder cette vidéo, c'est impressionnant. Ce qui est aussi, on va dire, impressionnant, c'est la qualité des écrans.
Ouais, hein. Ifixit les montre à un moment donné d'ailleurs.
C'est de la 4K.
Ouais.
Je crois qu'ils sont fabriqués par Sony, ou en tout cas mis au point par Sony, ces écrans-là.
Oui. En fait, c'est vraiment, ça semble être vraiment l'arme secrète. Le secret de l'Apple Vision Pro, ce sont ces écrans. Effectivement, il y a un moment, on est en train de les découvrir là. C'est vraiment l'arme secrète d'Apple aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ils ont une résolution, on les voit là. Proche d'un écran 4K, d'un cheveu, on frôle la 4K. Et effectivement, ce serait Sony qui les fournirait. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des écrans et de la résolution, c'est que pour pouvoir arriver, c'est leur densité de pixels. C'est-à-dire, on arrive, j'ai noté, je vais essayer de vous retrouver le nombre, 23 millions de pixels dans cet écran. C'est une finesse de pixels de 7,5 microns. C'est un globule rouge. Voilà, c'est-à-dire, quand vous portez, et c'est ça qui m'a vraiment impressionné, c'est que je n'ai pas vu le moindre pixel. Tout le monde l'a dit. On a l'impression de ne pas être dans un univers virtuel recomposé.
C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, quand on regarde un film, d'être au cinéma.
Voilà.
Et on a vraiment une sensation de projection d'image.
Voilà, tu arriverais à 3386 ppp, les fameux ppp, les écrans Retina chez Apple. Mm-hmm. 3386, jamais des écrans ont atteint une telle résolution. À titre de comparaison, un iPhone 15 Pro, aujourd'hui, c'est 460 ppp. Donc, on arrive à une finesse considérable. Et pour arriver à cela, et c'est là où c'est intéressant, je ne sais pas comment iFixit a eu cette info, puisque c'est iFixit qui la raconte dans sa vidéo, c'est que certes, c'est un écran Apple, un écran Sony, pardon, mais pour y parvenir, ils auraient utilisé un substrat pour la fabrication qui viendrait de TSMC. En clair, c'est TSMC qui permettrait d'arriver à cette densité de pixels.
Donc, c'est une association Sony-TSMC.
Et donc, ça veut dire que demain, si je suis Meta, je suis Google, je veux faire un casque équivalent, j'appelle Sony, je n'aurai pas forcément les mêmes écrans. Ça veut dire qu'encore une fois, et c'est chaque fois qu'Apple lance un produit, non seulement ils trouvent le composant maître dont ils ne sont pas forcément propriétaires, ils n'ont pas forcément la paternité, mais ils arrivent à avoir l'exclusivité de la production pendant un temps. Et on peut... Pendant longtemps, ça a été des écrans multipoints pour l'iPhone, puisque la concurrence n'avait pas accès, il n'y avait pas assez de production. L'iPod, souviens-toi, c'était le disque dur qui était tellement compact que voilà, les concurrents ne pouvaient pas l'avoir parce qu'ils avaient acheté toute la production mondiale. Là, ce sera encore un avantage que se garderait dans la manche Tim Cook.
Alors, bon, voilà, c'est un produit impressionnant technologiquement. Mais malgré tout ça... Damien le disait, c'est un peu lourd. Voilà, c'est
un premier modèle, c'est normal, je pense. On peut leur donner quand même le bénéfice du doute sur ce genre de produit, mais je pense que le prochain va vite arriver déjà.
Ce qui est intéressant, c'est que Apple a une feuille de route, visiblement, parce que Mark Gurman, qui est un journaliste très très réputé, qui a beaucoup d'informations en exclusivité concernant Apple, a dit des choses là-dessus, Olivier.
Oui, dans sa dernière newsletter, il indique qu'en gros, ce serait vraiment une première version, comme tu l'expliquais, Damien. Et qu'en gros, les designers et ingénieurs d'Apple estimaient que leur vision finale, son jeu de mots de l'Apple Vision Pro, ce serait d'ici 4 générations. Il faudra attendre encore 4 générations pour avoir vraiment la matérialisation de ce qu'ils veulent obtenir en termes de form factor. Moi, ce que j'attends, c'est obtenir en termes de budget, parce qu'à 4 000 euros presque, si on fait la conversion avec la TVA notamment et la taxe sur la copie privée, voilà, il faut que le produit arrive à moins de... il faut qu'il casse le prix en deux, si on n'y arrivera pas, hein, c'est clair. C'est clair.
Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, ce lancement d'Apple était très attendu par à la fois les clients, mais aussi les observateurs de ce milieu-là, et les concurrents, notamment Meta. Meta qui doit se sentir un peu soulagé de voir qu'Apple se lance aussi dans ce domaine-là. On en a déjà parlé. Et c'est intéressant parce qu'il y a 2 jours, Mark Zuckerberg a posté une vidéo sur Instagram en comparant un peu les deux masques. Le dernier Quest 3, même pas le Pro, je parle du Quest 3 et le Vision Pro, qui sont à des années-lumière en termes de tarifs. Je crois qu'il y en a un qui est à 500 euros et l'autre à 4000.
C'est clairement pas le même modèle économique. Non. Bon, Meta, ils savent très bien qu'ils ne vendent pas que du matériel, que derrière, ils vendent d'autres services et qu'ils collectent 2-3 choses en route, certainement. Bon, c'est un autre modèle économique. Après, Meta aussi peut-être fait l'erreur à l'origine de parler de Metaverse. Apple n'a jamais parlé de Metaverse dans sa communication sur l'Apple Vision Pro. On n'a jamais dit, on va vous emmener dans un univers parallèle, vous allez voir une nouvelle vie sociale en ligne. Ils ne s'y sont pas risqués. Et...
Mais alors, bon, c'est intéressant de voir ce qu'a dit Mark Zuckerberg par rapport au Vision Pro. Alors, il respecte Apple, il n'y a pas de souci. Mais il dit malgré tout que son Quest 3 est meilleur que le Vision Pro. Alors, je pense que là, il va un peu loin. Cela dit, il défend son steak. Mais il dit, c'est plus léger. La batterie n'est pas accrochée dans le dos. C'est vrai, il a raison. Hein, ça, on peut. Voilà, il dit que on a une plus grande liberté de mouvement. Bon, je sais pas pourquoi il dit ça, mais bon, voilà.
À cause de la batterie, hein, certainement.
Sans doute, sans doute.
C'est vrai que c'est.
Et puis il dit, surtout, c'est 7 fois moins cher. Et que voilà, les deux masques n'ont pas la même philosophie. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que malgré tout, c'est très rare de voir comme ça. Un géant américain comparer son produit à un autre géant américain. Alors là, même si voilà, c'est assez subtil, il y a cette comparaison. Oui. Je trouve ça fou quand même.
Ça te rappelle à rien quelques années en arrière au lancement de l'iPhone quand Microsoft et Steve Ballmer comparaient l'iPhone à ses téléphones sous Windows.
Ils disaient que ça ne marcherait jamais.
Oui, il n'y a pas de clavier.
<C'est vrai.
rire> Mais voilà, non, mais. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de la réalité virtuelle. Je ne suis pas un gamer, j'avais essayé l'Oculus il y a des années, mais je n'avais jamais essayé la dernière version de Quest. Et donc là, pour l'émission qu'on a fait pour le Vision Pro, on a demandé à Meta, on sentait qu'ils n'étaient pas très confortables, de nous envoyer un exemplaire pour qu'on compare. Et effectivement, malheureusement pour Meta, c'est qu'avant d'essayer le Meta, j'ai essayé le Vision Pro. Et là, ce n'est pas en sa faveur, parce qu'effectivement, ces écrans dont on parlait tout à l'heure, c'est toute la différence. Oui. Quand je porte le casque d'Apple... Après, je suis marqué au fer rouge par la pomme, mais on ne sent pas qu'on est dans un univers virtuel. Bien sûr qu'on se doute bien qu'on a un casque sur les yeux, mais on n'a pas cette oppression.
Oui, c'est clair.
On porte le Quest, on est des écrans, non pas 4K, mais des écrans en HD. On voit qu'il y a une calibration qui se fait, mais qui est quand même beaucoup moins poussée en matière de précision et de calcul de distance des yeux, si tu as un strabisme ou pas un strabisme. Le rendu n'a rien à voir.
Ça peut aussi suffire pour une génération, pour entrer dans la réalité virtuelle à moindre coût.
Bien sûr.
Jouer à des jeux, regarder un peu des vidéos, pas forcément des formats longs. Ça peut suffire à plein de gens. Enfin, 400 euros.
Mais je trouve
500
euros,
ça a augmenté.
Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, c'est que ça va. Enfin, il y a une espèce d'émulation qui se fait autour de tout ça. C'est-à-dire que Zuckerberg aujourd'hui a une espèce d'étalon qui est le Vision Pro, même s'il ne dit pas, il doit se dire OK, bon.
Puis derrière, il y a
ma prochaine génération, il va falloir que je fasse au moins aussi bien, voire mieux.
Augmenter le niveau.
Et ça va être une espèce d'escalade qui va peut-être accélérer l'innovation technologique pour notre plus grand plaisir finalement, parce que. Aujourd'hui, il y a ces deux acteurs, mais on peut imaginer que demain, il y ait Samsung et Google, puisque c'est ce qu'on murmure. Et peut-être d'autres aussi, donc intéressant.
Non, mais on sait qu'on l'a encore vécu lorsque l'iPhone est arrivé. Les géants des télécoms, enfin des téléphones à l'époque, puisque ce n'était pas encore des smartphones, avaient du mal à populariser le concept du smartphone et le réserver à des geeks ou à des professionnels. L'iPhone a popularisé le smartphone dans le grand public. Mmh. Et aujourd'hui, il n'est pas leader du marché avec l'iPhone. Mais, enfin, quoique, de plus en plus. En tout cas, il n'est pas leader en termes de part de marché d'OS aujourd'hui avec Android, même si c'est le constructeur qui vend le plus de téléphones aujourd'hui. Donc demain, c'est une excellente nouvelle pour Meta et Mark Zuckerberg que l'Apple Vision Pro arrive, parce qu'il va évangéliser, Apple vont évangéliser les usages autour des...
Et puis il y aura une offre alternative moins chère.
Aussi, un développeur qui a fait une application Vision Pro va pouvoir ensuite le faire pour un autre casque sans problème.
Ce que met Mark Zuckerberg en avant aussi, c'est la richesse d'applications qu'il y a sur son store. Et là, c'est vrai qu'il a raison. Étant donné que ça fait des années qu'il déroule sa stratégie, il y a beaucoup, beaucoup d'applications.
Ils ont beaucoup sponsorisé au début les développeurs, studios pour créer et des jeux et des applications.
Donc
ils veulent rentrer dans leur sous aussi.
C'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant. Donc, on va bien voir un peu comment tout ça évolue. Je vous propose de rester toujours du côté d'Apple, mais peut-être s'intéresser sur d'autres produits, parce que l'iPhone 16... est en train d'être est en pleine gestation. Il arrivera en septembre prochain. Qu'est-ce qu'on sait sur cet iPhone 16, Olivier ? On a déjà des informations intéressantes.
Les infos commencent à tomber puisque tu sais qu'il arrive normalement en septembre. Les chaînes de prod doivent être prêtes pour le mois de mai, mois de juin.
Parce que c'est là qu'ils commencent à en fabriquer des millions.
Septembre. Donc ça veut dire que le design doit être finalisé dans les semaines qui viennent pour être prêt d'ici le printemps ou plus tard. Donc oui, il y a quelques infos qui commencent à tomber. D'abord concernant l'iPhone 16 qui perdrait, au dos son bloc optique avec les deux objectifs qui sont en diagonale. Il deviendrait maintenant parallèle comme autrefois l'iPhone 10. Il y avait, deux petits objectifs. Maintenant, tu en aurais deux gros, l'ultra grand angle et le Et le grand angle, pourquoi il ferait ça? Justement par rapport au Vision Pro, parce qu'on sait que sur l'iPhone 15 Pro Max et sur l'iPhone 15 aujourd'hui, il est possible, grâce à la disposition de ces caméras, de prendre des vidéos en 360 de façon et alimenter le Vision Pro. Ce n'est pas possible sur le 15 parce qu'il est forcément avec ses objectifs en diagonale.
C'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max.
Oui, aujourd'hui, c'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max.
Donc le 16 pourrait, tous les modèles du 16 pourraient faire des vidéos immersives pour compatibles avec le Vision Pro.
Ce serait la principale nouveauté. Il devrait hériter de toutes les nouveautés qui sont arrivées cette année sur le 15 Pro Max. Donc le fameux petit bouton, tu sais, qui permet de faire un raccourci. Bouton action. Qui arriverait également. Enfin voilà, toutes les petits
rapidement. Ça, j'ai envie de dire, c'est des détails. Ouais. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Apple appuierait enfin sur le bouton intelligence artificielle.
Oui.
Avec le 16. Et notamment iOS, dans la nouvelle version d'iOS, qui serait, d'après ce qu'on dit, vraiment une mise à jour majeure.
De rupture, oui.
Ouais, une mise à jour de rupture. Je ne sais pas si tu en as entendu, Damien.
Oui, il serait temps, parce que l'année dernière, on était à la conférence des développeurs. C'est vrai qu'ils ont parlé beaucoup d'IA sans dire IA. Il y a le terme IA n'a jamais été prononcé pendant toute la conférence. Ce qui est bien dommage, parce que ça va peut-être inciter encore les gens à investir encore plus ce champ de recherche. Mais en gros, iOS, oui, ils sont obligés maintenant, ils sont quasiment au pied du mur, de mettre l'IA à peu près partout. Quand on voit ce que sort Samsung, quand on voit ce que peuvent sortir sur les pixels de Google, à un moment, il faut qu'ils accélèrent, oui.
Et au-delà, il faut qu'ils créent leur propre langage d'IA génératif. Hein. C'est ça l'enjeu. Hein. Ils étaient très discrets, tu l'as dit l'année dernière. Ils ont tout misé sur Vision Pro.
Ils ont commencé à en faire. Il y a eu une première itération qui est passée sur GitHub il y a quelques jours. Là. Mais ils ont laissé ça à des développeurs obscurs. Et ils n'ont pas encore vraiment. Ils incarnent pas encore l'IA, en fait. Le problème d'Apple pour l'instant, c'est que Microsoft arrive à l'incarner à travers ChatGPT. Google a aussi mis la main dessus, mais Apple, on se dit, mais ils sont un peu en retard. Et là, ils n'ont plus le choix.
Ah non, ils ne sont pas en retard, ils sont carrément à la ramasse. Mais là, apparemment, ils mettraient effectivement les bouchées doubles pour la WWDC, la conférence des développeurs, et c'est là qu'est généralement dévoilée la nouvelle version d'iOS. Et qu'ils mettraient un gros accent, parce que c'est vrai que même si ce n'est pas l'intelligence artificielle génératif tel qu'on le conçoit aujourd'hui, on regarde Siri, on se dit qu'Apple a beaucoup de progrès à faire et je suis tendre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Apple Vision Pro aussi, un super Siri dopé à l'IA génératif. Donc ça va aussi dans ce sens-là. Donc effectivement, la principale nouveauté elle sera certainement le logiciel l'année prochaine et devra être intégrée à Apple. Et c'est d'autant plus dommage que ça ne soit pas présent aujourd'hui et apparemment, des petits bruits de couloir au sein de Cupertino qui a une grande frustration. Pourquoi ? Parce qu'ils ont énormément travaillé sur les puces. Hein. Ils mettent à longueur de Keynote et d'Apple Event que c'est la meilleure puce du marché, la plus économe, et qui en plus serait la plus efficiente en matière d'IA génératif. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas le langage chez Apple. Donc on ne peut pas exploiter ces
systèmes. Ils ont le hardware, mais pas le soft.
Ouais,
c'est quand même assez terrible.
Alors ils auraient les capacités de faire de l'IA générative sur un appareil, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, malheureusement, de le faire uniquement en local, et ça pourrait tout changer pour l'IA.
Voilà. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, ils ont pris énormément de retard hein, quand on voit ce qu'arrive à faire un ChatGPT aujourd'hui. Par contre, quand on voit le retard qui a été comblé par Mistral en quelques mois,
on peut se dire qu'Apple n'est pas complètement dépassé.
Et quand on voit les moyens financiers qu'ils ont, on se dit bon, on va voir. J'ai hâte d'être au mois de juin en tout cas.
Ouais, la WWDC va être sans doute très intéressante.
On peut acheter quelques startups en attendant.
Oui.
Et les intégrer facilement.
Oui, bien sûr.
Embaucher quelques Français d'ici ou de là.
Ouais,
et puis je ne sais pas si vous avez vu, donc Apple s'intéresserait pour rester toujours sur le registre de l'iPhone. S'intéresserait au téléphone pliable. C'est ce qui reviendrait. Mais ce ne serait pas pour tout de suite. Il faudra attendre plutôt 2025, puisque le standard...
Voire 2026, moi j'ai lu. Parce qu'en fait, ça serait...
2 ans.
Il y aurait 2 ans d'attente. Ils auraient quelques problèmes encore techniques, visiblement.
Les critères
d'intégration de batterie, enfin des choses comme ça.
Les critères de qualité d'Apple sont... En matière de design, sont excessivement exigeants. Par exemple, la petite pliure que vous voyez sur les Samsung, sur les flips notamment, forcément qu'on voit sur l'écran, ça, c'est absolument pas envisageable chez Apple.
Il faut qu'ils trouvent une solution technique.
Que l'industrie déjà progresse et que leurs fournisseurs progressent pour ensuite pouvoir. Ouais. Clairement, les écrans des iPhones, c'est déjà du Samsung.
Puis au-delà.
La plupart du temps, donc ils vont attendre que Samsung fasse le pas décisif.
Effectivement.
Pour effacer cette pliure.
Et puis au-delà, quand tu sais le nombre d'iPhones qui sont vendus par trimestre, 40, 50, 60, 70 millions d'exemplaires, il faut que ces fournisseurs aient la capacité de production. Et c'est pas évident de fournir 30, à peut-être pas 70 millions d'un coup, mais 10 ou 15 millions supplémentaires à Apple. Je ne suis pas sûr qu'un Samsung puisse répondre à ce niveau de qualité. Donc, ça prend du temps.
Ouais, et encore une fois, quand le premier iPhone pliant, ou iPad aussi, parce qu'on évoque aussi l'iPad, peut-être que l'iPad arriverait même avant l'iPhone parce que c'est plus facile à fabriquer, il y a moins de contraintes avec l'iPad.
Limiter un seul modèle, on pourrait être sur un iPhone 17 Pro Max.
On sait qu'Apple aime bien compartimenter, tu sais, les familles, et on sait que s'ils sortent un gros iPhone avec un écran pliable, ils vont faire de l'ombre à l'iPad. Voilà. Ouais. Soit ils sortent un mini iPhone qui deviendrait comme un flip, l'équivalent d'un 14 Pro, d'un 15 Pro ou d'un 15 Pro Max, soit effectivement, ce serait plutôt l'iPad qui a besoin, quand même, les ventes s'écroulent en ce moment des tablettes. Donc je pense qu'il faut qu'ils rafraîchissent un peu le concept.
Messieurs, merci beaucoup. Merci à Damien Licata. Merci à Olivier Frigara, Le Parisien, on refait le Mac. On va se retrouver dans un instant pour la suite de ce De quoi je me mêle avec Lionel Costa, le responsable du Labo Fnac, pour nous aider à choisir notre barre de son, parce que c'est vrai que c'est un sujet important. Hein. Si vous avez une belle télé, autant avoir un bon son aussi associé. Et on se retrouve pour le module bonus avec Damien et Olivier, juste après le module bonus, exclusivement en audio. Merci de nous suivre et à tout de suite donc avec le Labo Fnac.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.